A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
Existe-t-il des Français enfants d'Africains capables de dire sans hésiter « je suis Français » ? C'est l'une des multiples questions qu'Elisa Diallo se pose dans « Filles de France » qui vient de sortir aux éditions Climat. C'est à la fois intime comme récit et en même temps ça parle d'un « nous » toujours à la marge. Un « nous » qui n'aurait pas la bonne couleur, la bonne religion ou la bonne généalogie. Elisa Diallo, née d'une mère française et d'un père guinéen, analyse, scrute, dissèque même et met en parallèle son ressenti de fille française et le regard de l'autre sur cette francité forcément douteuse. Et parce qu'elle souhaitait ne plus se sentir une fille mal aimée de la France, elle est devenue allemande. Guten Tag, Elisa Diallo.
Guten Tag.
Et merci de nous accorder cette interview qui a lieu, je le précise, pendant la tenue du Salon du Livre de Paris. Vous avez donc fait le voyage Francfort-Paris, c'est ça ?
C'est ça.
Oui. Avec, j'imagine, un sentiment particulier pour vous de revenir en France avec précisément ce récit.
Oui, c'est impressionnant, c'est un peu effrayant.
Parfois, effrayant
j'appréhende les réactions. Il m'arrive d'espérer que personne le lise en France. Parce que je me rends compte que c'est des choses que j'ai longtemps pas osé dire. Et si j'ai pas osé les dire, c'est sans doute parce que j'appréhende les réactions, parce que j'ai l'intuition que c'est pas des choses qu'on a envie d'entendre du tout.
Oui, en 2019, je pense qu'on peut commencer à avoir les oreilles un peu mûres pour entendre ce genre de récit, mais il fallait que votre ressenti passe par l'écriture.
Oui, l'écriture, parce que la lecture, moi, il me semble que tout ce que j'ai compris, la plupart de mes démarches intellectuelles ou même émotionnelles, sentimentales, sont toujours partis de la lecture.
Et puis vous êtes dans l'édition.
Et je travaille dans l'édition aussi, ce qui fait que voilà, le livre est vraiment au centre, autour de ma vie complètement.
On va vous écouter comme un livre ouvert alors. Et commencer par écouter en sol majeur Gainsbourg avec Couleur Café. Qui sonne comment à vos oreilles, ce Couleur Café ?
Alors, évidemment, maintenant, j'aurais des tas de choses à dire. On pourrait aussi écrire un livre sur ce genre d'exotisme des années 80. Mais à l'époque, pour moi, c'était une reconnaissance, c'était un bonheur d'avoir un chanteur aussi central, aussi reconnu, qui avait l'air de parler de moi. Et puis, c'était pas la première fois, parce que Gainsbourg, il a aussi une chanson « Elisa ». Qu'on me chantait à chaque fois que je disais mon nom, qu'on me demandait comment tu t'appelles et que je répondais Elisa. Mais Couleur Café, c'est une chanson qui me parlait.
Donc Couleur Café pour Elisa, c'est Gainsbourg en sol majeur.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche.
Couleur café, que j'aime ta couleur café.
L'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Couleur, café. café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café.
Chaque fois, je m'émerveille de la force de ce lien national, tout entier irrationnel et pourtant si fort, si concret. Je suis émerveillée et horrifiée tout à la fois. Comment, à quel moment et par quelle magie nous transformons-nous en êtres nationaux? Et que faudrait-il, combien de temps passer au loin pour rompre ce lien? Car je rêve parfois d'en être délivrée, de ne plus me sentir fille de France, pour ne plus me sentir fille mal aimée.
Allons enfants de la patrie.
Avec une première question, Elisa Diallo, à quel moment vous prenez conscience de votre, ce qu'on pourrait appeler votre malaise identitaire?
Ah, c'est difficile. En tout cas, il est né à l'entrée à l'école, très clairement. Et puis, je pense que c'est vraiment l'école qui instaure, qui solidifie ce sentiment de ne pas appartenir à la communauté nationale.
Comment ça?
Parce que le mythe de cette communauté nationale qui se comprend comme quelque chose qui vient du passé est central à l'école, donc dans le récit de l'histoire. Et puis aussi, il y a toujours cette réponse quand quelque chose est gênant, quand on sent un malaise justement quand on est enfant et qu'on pointe quelque chose dans les paroles de l'enseignant qui nous semble gênante pour soi, pour un enfant métis, la réponse c'est pratiquement systématiquement oui non mais pour nous, pour la majorité c'est pas gênant.
Mm-hmm.
En gros,
la minorité devra rester silencieuse.
Voilà, voilà. Petit à petit, mais de manière certaine, on se sent exclu de ce nous. Alors qu'on en fait partie, qu'on n'a pas d'autre nous. Enfin, moi, j'avais pas d'autre nous, j'avais pas d'autre identité que l'identité française.
Alors, si on rentrait dans l'univers sonore de votre enfance, en fait, on y trouverait des choses assez hétéroclites. Par exemple, Myriam Makeba.
Myriam Makeba, c'est une des figures culturelles, je dirais, qui était à l'ordre du jour chez moi. Inconnue à l'extérieur, me semble-t-il. En tout cas, dans la cour d'école, c'était des choses qui me distinguaient de mes camarades. Et puis Myriam Makeba, c'est aussi une figure qui m'intéresse parce que elle a été liée avec le président guinéen, Sékou Touré. Et c'est une histoire qui est très mal connue en France ou en dehors des pays africains, je dirais.
Et Sékou Touré, c'est déjà papa. Mais ça, on y reviendra.
Voilà.
Ou 1769, 5 mai 1821.
Mais il y avait aussi le jeu des 1000 francs.
Exactement.
Un jeu très français.
Voilà, c'est ma grand-mère qui écoutait le jeu des 1000 francs tous les jours dans sa cuisine. Mais c'est un des sons de mon enfance, absolument en bruit de fond, comme ça. Je passais beaucoup de temps chez ma grand-mère. Et voilà, donc effectivement, c'est
jambon puré, jeu des 1000 francs.
Exactement.
Il y avait aussi des chants révolutionnaires allemands.
Oui. Que ma mère avait ramené de sa période de séjour linguistique en Allemagne, me semble-t-il, des 45 tours, à côté des Beatles et de Barbara et de Brassens. Il y avait aussi ça.
Par contre, on a eu du mal à trouver un papa parlant peul au téléphone.
Alors, mon papa parlait peul au téléphone, justement, avec sa famille, mais il ne parlait pas peul du tout à la maison, qui considérait que l'intégration, c'était ce qu'il y avait de plus important. Puis, c'était pas même pas tant une question d'intégration, c'est aussi que c'est pas seulement sa génération, c'est aussi une foi, disons, coloniale, dans, évidemment, la supériorité du français, de la culture française.
Vous sentiez ça chez votre père?
On n'en a jamais parlé comme ça, ouvertement. Mais en tout cas, il n'était absolument pas question d'apprendre le peul pour nous. Et quand j'ai essayé de m'y mettre à l'adolescence, je me souviens aussi que il s'est moqué de moi, parce que je prononçais les... j'arrive pas à rouler les R. Donc ça m'a découragée complètement.
En tout cas, vous racontez bien, Elisa Diallo, que l'histoire des décolonisations est un peu en lien avec la rencontre de vos parents. Racontez-nous comment ils se sont rencontrés.
Alors, ils se sont rencontrés à Sciences Po.
Dans les années 60.
Voilà, dans les années 60. Mon père, lui, avait fait une étape, longue étape, en Russie, à Moscou, au moment de la décolonisation de son pays, la Guinée, en 58. Lui, il est parti très vite. Il avait une bourse de l'Union soviétique pour partir étudier à Moscou, où il est resté, il me semble, 5 ans. Et puis ensuite, au lieu de retourner en Guinée, il est parti à Paris. Et il a rencontré donc ma mère, qui était elle-même étudiante à Sciences Po. À Sciences Po, lui, il était dans la promotion des étrangers, me semble-t-il.
Et qu'un Africain épouse une Française dans ces années 60, c'est vécu comment dans la famille ?
Je fais attention à ce que je dis. Certainement surprenant, peut-être pas évident au départ, mais on m'a toujours raconté que finalement, mes grands-parents s'étaient assez vite habitués, et puis que mon père était charmant, et que finalement, une fois qu'on se rencontre en vrai, il n'y a plus de raison d'avoir quoi que ce soit à redire.
Mmh. En même temps, c'est une famille française qui est traversée par l'altérité, puisque vous avez une arrière-grand-mère née à Djidjel, en Algérie.
Oui, exactement. Pieds noirs. La mère de mon grand-père, qui a elle-même rencontré son mari, son futur mari, qui était stationné là-bas pendant la Première Guerre mondiale, donc mon arrière-grand-père, qui est tombée amoureuse de cette petite pied noire, qui l'a ramenée dans sa Normandie natale. Ça a dû être extrêmement difficile aussi. D'ailleurs, je sais par des récits qui nous ont été transmis que ça a été difficile. Et donc ça aussi, ça fait partie de l'histoire familiale et ça fait partie de l'histoire française.
Donc famille traversée par l'altérité, mais en même temps, vous, la petite métisse, vous faites l'expérience du racisme ordinaire au sein même de votre famille. C'est un racisme pas méchant, on va
voilà.
dire. Donc vous êtes sensibilisée au fait que vous êtes noire assez jeune et soumise, vous racontez ça dans votre livre, à un comportement spécifique par rapport à vos concitoyens blancs. Vous avez développé ce qu'on appelle, pas en France mais aux États-Unis, une double conscience.
Oui. En tout cas, le fait de toujours prendre en compte la manière dont la norme, les gens qui font partie de la norme vont nous percevoir, et prendre en compte le fait que la première chose qu'ils vont voir de nous, c'est notre couleur, le fait qu'on n'est pas blanc. Moi, il me semble que j'ai toujours cherché, et c'est encore le cas maintenant,
désamorcer.
Voilà, à désamorcer, à dire, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de moi.
Donc le noir fait peur, c'est ce que vous ressentez, vous, dans le regard de l'autre, déjà.
Oui, déjà, d'ailleurs, quand j'étais enfant, je me souviens très bien que je faisais peur aux bébés, aux enfants plus petits que moi. Et c'était quand même extraordinaire, parce que comment est-ce qu'un enfant de 8 ans peut-il faire peur ?
Vous sentiez de la crainte dans le regard d'un nourrisson.
Voilà. D'un nourrisson, enfin d'un petit enfant, mais ça m'arrive encore très souvent maintenant. D'ailleurs, autant en Allemagne qu'en France, peut-être même plus en Allemagne qu'en France.
Ça paraît en même temps... Est-ce qu'on ne développe pas, quand on a comme
peut-être.
Ça sur son chemin jalonné, une méfiance intrinsèque, répétée,
oui,
réaffirmée
oui.
Je dirais pas une paranoïa, mais quand même quelque chose qui est en éveil, en alerte.
Exactement.
Une interprétation sur interprétation.
Tout à fait. On a une sensibilité particulière, certainement qui relève de la paranoïa. Et puis la double conscience, c'est certainement un phénomène que connaissent des tas de gens dans d'autres contextes.
En tout cas, l'Allemagne, dans votre vie, ça commence par des cours d'allemand, en général assez désastreux. Ça nous fait un destin commun. Et ça commence aussi par un séjour linguistique. Alors lui, apparemment catastrophique. C'est ce que vous racontez dans Filles de France, Elisa Diallo. Vous avez 15 ans à ce moment-là. On est en 91. Et ça se passe à Schweinfurt am Main. On est entre Munich et Francfort.
Dans cette ville d'Allemagne de l'Ouest, de 50 000 habitants, située à un peu plus d'une heure de route de Francfort, les gens s'arrêtaient dans la rue pour me dévisager. Je ne connaissais que Paris. Je ne m'y étais jamais sentie autrement que chez moi, une habitante parmi d'autres. Me retrouver d'un coup phénomène de foire parce que je n'étais pas blanche était pour le moins déstabilisant. Je n'avais traversé qu'une frontière, mais j'avais l'impression d'avoir changé d'époque, d'être revenue au temps où en Europe, tout le monde était blanc et où les noirs des colonies n'existaient qu'en gravure.
Gewiss, dort gibt es keine Seine und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen blieben von Göttingen, Paris besingt man immer wieder. Von Göttingen gibt's keine Lieder und dabei blüht auch doch die Liebe in Göttingen. Mir scheint, wir sind weit schlechter Kenner in puncto Frankreichs große Männer als Hermann, Helga, Fritz und Franz in Göttingen. Ihr spielte auch ganz ohne Frage das Märchen unserer Kindertage. Es war einmal ja vor Beginns in Göttingen. Gewiss, dort gibt es keine Seine und auch den Wald nicht von Vincennes. Doch sah ich nur so schöne Rosen in Göttingen, das Morgengrau ist nicht das gleiche, die Beiverlen, da sind wir bleiche. Doch traurig stimmt es auch Franzosen in Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter, man weiß es, Lächeln ist gescheiter, es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen. Es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig blieben von Göttingen, es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig blieben. Von Göttingen,
comme histoire coloniale.
Alors évidemment, votre cheminement vers l'Allemagne va mûrir, comme l'Allemagne elle-même, qui est, vous dites, d'une grande humilité par rapport à son récit national.
Ben, par la force des choses, par la force de l'histoire plutôt, l'Allemagne, même, on est 70 ans après la grande catastrophe, s'il y a fierté nationale, en tout cas, autre que autour d'une identité nationale. Je pense que l'Allemagne aussi s'est construite quand même, l'Allemagne de l'Ouest, s'est construite à la fois par rapport au passé nazi, mais aussi en contraste avec l'Allemagne de l'Est. Et je pense que un élément central du récit national allemand, c'est la démocratie. Le fait qu'ils ont reconstruit la démocratie après le nazisme, le fascisme, et à côté du communisme...
Du rideau de fer.
Voilà. Ça, c'est central dans l'identité allemande, beaucoup plus
et que... ça change quoi dans ce rapport à l'identité, ce qu'on appelle l'identité nationale? Cette prédominance, ce regard porté sur la démocratie?
Et ça change que c'est un regard... plus rationnel, moins émotif, moins sentimental que le mythe national français. Et puis, il y a une cassure par rapport au passé en Allemagne qui n'existe pas en France. C'est-à-dire qu'en France, il y a un récit quand même continu d'une histoire nationale dont on peut être fier à peu près depuis toujours jusqu'à aujourd'hui.
Ça vous arrive de rechercher des traces coloniales à Berlin ?
Pas encore, mais c'est un sujet qui m'intéresse, que je connais très peu encore.
J'ai lu par exemple que Berlin pensait à rebaptiser certaines rues évoquant la colonisation allemande en Afrique, notamment les noms de quatre rues du secteur surnommées le quartier africain.
Ah, je ne savais pas.
Vous ne savez pas.
Non.
Comment vous vous sentez-vous aujourd'hui dans la langue allemande ? Qu'on écoutait un tout petit peu avec Barbara à l'instant.
Mais je me sens bien, j'ai même du mal à parler français avec mes enfants. Mon mari est allemand, on parle allemand, je travaille en allemand. J'ai du mal, en rentrant chez moi, tout d'un coup, à changer de langue et à parler, à dire une phrase à mon mari en allemand et puis me tourner vers mon fils et lui parler en français. Ça, j'ai beaucoup de mal à faire.
Vous pourriez, pour un seul major, nous traduire comme ça, à la bonne franquette en famille, juste les premières lignes de votre récit, Fille de France ?
Je vais essayer. Donc le premier titre, c'est Point de départ. Je suis devenue allemande en juin 2017. Je l'ai fait parce que c'était possible et relativement simple. Je vivais dans ce pays depuis 8 ans et j'étais citoyenne européenne. J'aurais pu le faire des années plus tôt, j'aurais pu le faire ailleurs, devenir néerlandaise aux Pays-Bas où j'avais vécu précédemment pendant plus de 11 ans. Anfang. Ich bin Deutsch geworden im Juni 2017. Das habe ich getan, weil es möglich war und auch relativ einfach. Ich wohnte in diesem Land seit 8 Jahren und ich war auch europäische Bürgerin.
Merci Elisa Diallo. Non, je sais, je comprends, je compatis sur la difficulté à traduire comme ça en direct. Mais c'était juste pour tester, pour entendre. Vous avez une voix différente dans les deux langues.
Je pense que
en
oui,
allemand.
Oui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai l'impression d'avoir une voix plus grave en français, ou c'est le contraire. En tout cas, j'irais jusqu'à dire que je ne suis pas la même personne en français et en allemand, parce je me sens beaucoup plus sûre de moi en français. C'est la langue de la continuité plus pour moi, donc je suis à la fois plus sûre de moi et en même temps, je peux être enfant aussi en français, alors qu'en allemand, c'est une langue que j'ai apprise adulte et avec laquelle j'ai un rapport d'adulte.
Vous ne pouvez pas être capricieuse en allemand ?
Peut-être, oui.
Alors cette décision de naturalisation allemande, elle a mis évidemment du temps à germer en vous et cette décision n'est pas sans rapport avec le fameux discours sur l'intégration des réfugiés en Allemagne de la chancelière Angela Merkel. On va l'écouter au cours de ses vœux de 2016.
Beaucoup de ces réfugiés ont échappé littéralement à la mort. Leur venir en aide et les accueillir dans notre pays constitue une évidence. Bien sûr, il s'agit d'un défi important. Cela demandera du temps, des efforts et des moyens. Mais une intégration réussie a toujours profité aux pays qui ont œuvré, qu'il s'agisse de leur économie ou du développement de leur société. Notre pays a par ailleurs relevé de nombreux défis importants dans le passé et en est ressorti grandi. J'en suis convaincue. Si ce nouveau défi est mené à bien, il constitue une chance pour l'avenir. Nous profitons d'un engagement exceptionnel de la société civile, doublé d'une politique à la hauteur des enjeux. L'essentiel est à l'avenir que nous restions un pays qui a confiance en lui, libre, humaniste et ouvert sur le monde, heureux de réussir, satisfait d'avoir tout donné. C'est vrai, la période actuelle constitue un défi exceptionnel. Mais nous y arriverons, car l'Allemagne est un pays fort.
Angela Merkel sur RFI pour discuter en sol majeur avec notre invitée Elisa Diallo. Alors, racontez-nous l'impact de ce discours et peut-être le faisceau de raisons qui vous ont poussé à vous jeter, vous, française, dans les bras de la nationalité allemande.
Oui, alors d'abord, je n'avais pas réécouté ça depuis. Je trouve toujours que c'est extraordinaire. Parce que n'importe quel chef d'État de n'importe quel pays européen aurait dû dire ça.
Elle l'a payé cher, hein, en même temps, ce discours.
Je ne sais pas. Je pense qu'avec ce discours, elle est rentrée dans l'histoire d'une manière positive. Et elle nous a fait tellement de bien.
Alors nous, c'est qui ? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes
nous,
encore
c'est tous
dans l'identité française quand vous entendez ce discours.
Oui, mais je suis aussi quand même depuis longtemps dans une identité européenne.
Vous avez vécu pendant 11 ans
Aux Pays-Bas, exactement.
Mais alors pourquoi aller quand même vers cette identité allemande à ce moment-là ?
Pour pouvoir faire partie du corps politique allemand aussi, pour pouvoir voter. J'habite en Allemagne.
Ah oui, vous habitiez en Allemagne à ce moment-là. C'est un élément, évidemment. Vous aviez votre vie, vous étiez déjà mère de famille.
Exactement. Mm. Donc, faire partie de la société allemande, mais c'était aussi une démarche symbolique pour moi. Et c'est sûr que ça a été un basculement, cette prise de position d'Angela Merkel. J'ai l'impression que c'est la première fois que j'entendais ces mots, que l'immigration profite au pays d'accueil. Cette projection positive dans le futur, dans un futur pas identitaire, mais dans un futur citoyen.
C'est un moment clé dans ce sentiment d'appartenance qui pouvait commencer.
Exactement. Je me suis dit, mais finalement, peut-être que de manière rationnelle et citoyenne, je peux être une Allemande comme les autres.
Quitte à être immigrée. Oui. Ce que vous n'êtes pas en France.
Exactement, mais c'est beaucoup moins douloureux d'être étranger à l'étranger que de se sentir étranger chez soi.
Et en même temps, cette demande de naturalisation, ça a été un test en même temps par rapport à votre appartenance à l'identité française. Vous avez eu des tiraillements, vous avez eu peur. Il y a des conditions pour obtenir une nationalité.
Exactement. Enfin, au départ, pour moi, c'était absolument exclu pour moi cette démarche de prendre une autre nationalité parce que j'étais persuadée que pour prendre une autre nationalité, il faudrait que je renonce à la nationalité française. Et pour moi, c'était exclu.
Pourquoi ?
Bonne question. Pourquoi ? Parce que ça aurait été abandonner quelque chose auquel je tiens de manière irrationnelle, profondément, après avoir silencieusement, en mon fort intérieur, crié toute ma vie « Mais si, je suis française, mais si, moi aussi, comme vous, autant que vous !» Renoncer, ça me paraissait absolument...
Abdiquer.
Oui. Mais c'est des questions auxquelles j'ai pas de réponse. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ?
Et tout ça vient donc après 11 ans de vie aux Pays-Bas et la montée du populisme. On a en tête Geert Wilders et ses positions controversées, notamment vis-à-vis de l'immigration et de l'islam. Et cela vient aussi, et là je parle de l'Allemagne, malgré la montée de l'AfD, ce parti nationaliste allemand. Vous, Elisa Diallo, vous diriez que vous vous sentez plus en sécurité, malgré tous ces faisceaux inquiétants quand même, plus en sécurité en Allemagne qu'en France ?
Oui, mais encore une fois, c'est du ressenti. Peut-être aussi parce que je ne me sens pas agressée quand un militant de l'AfD ou un politicien de l'AfD rejette les étrangers en Allemagne. Et
pourquoi ?
Ça ne me touche pas.
Pourquoi ?
Parce que je vois ça de manière rationnelle. Je me dis, bon... Voilà, c'est un discours populiste. La majorité, quand même, la grande, grande, grande majorité des Allemands ne pense pas comme ça. En France, ça me terrorise, le mot est fort peut-être, mais en tout cas, ça me touche, ça me fait peur.
La question de la légitimité aussi, peut-être.
Oui.
Une violence décuplée que d'être pointée en tant qu'étrangère.
Oui, oui, c'est insupportable.
Donc en 2017, vous enclenchez cette demande de naturalisation et ce processus administratif toujours très lourd. Et ça occasionne chez vous, Elisa, des moments paniques presque. Hein. La panique, c'est lorsqu'au service des étrangers, il vous faut prouver la nationalité française de papa.
J'avais raison d'avoir peur. J'essaie d'expliquer calmement. Mon père est né en 1941, ou plutôt... comme il est inscrit sur son acte de naissance, sur la ligne réservée au père, vers 1941. Dans ce qui était à l'époque une colonie française, il n'y avait pas d'État guinéen, donc pas de nationalité. Mais on ne lui a pas fait de carte d'identité française non plus, il était africain. Il est né indigène. Voilà, c'est dit, je suis fille d'indigène. Plus tard, il y a eu l'Union française, les Africains devinrent citoyens eux aussi, mais c'était en... 1946, je crois.
Merci pour cet extrait en sol majeur de Filles de France, Elisa Diallo. Le problème de la dame là, du service des étrangers qui vous interroge, c'est quoi au fond ? Qu'est-ce qu'elle cherche à savoir ?
Elle cherche à savoir si je ne suis pas une immigrée dont on ne veut pas.
D'une nationalité guinéenne.
Voilà. Et moi, je l'ai ressenti comme un rejet. Ah, si je m'appelais Johansen. Ça ne la gênerait pas que j'ai peut-être une autre nationalité que la nationalité française ou que je ne sois pas complètement française. Mais là, ça lui semblait être un obstacle, elle m'a dit d'ailleurs. Ah, ça va être un obstacle.
Votre patronyme.
Voilà, que mon nom ne sonne pas français,
Diallo.
Elle m'a dit au téléphone. et que mon père ne soit pas né en France. Alors moi, j'ai tenté de lui expliquer que ça ne changeait rien du tout au fait que j'étais absolument complètement française et de nationalité française. Je sentais que j'étais rentrée dans la case suspect.
Mais vous découvrez que la nationalité française de votre père, c'est pas une histoire aussi simple que ça.
Ça m'a toujours fait un peu peur, ça. Je sentais qu'il y avait des ondes d'ombre. J'ai jamais posé trop de questions. Parce qu'effectivement, il est né dans une colonie française. Donc, à quel moment a-t-il obtenu la nationalité française? Qu'est-ce qu'il avait comme nationalité avant? Bref, c'est des choses pas claires du tout autour du thème de la nationalité, alors que on grandit avec l'idée que la nationalité, c'est quelque chose d'administratif, de clair.
C'est noir sur blanc.
C'est noir sur blanc, c'est des papiers, c'est officiel.
Et vous auriez, vous, c'est hors sujet, mais souhaité avoir la nationalité guinéenne?
Non. Maintenant que vous me la posez, c'est la première fois que je me pose la question.
Et pourquoi non, alors?
Pourquoi oui? J'aurais eu l'impression de l'usurper. J'ai été en tout et pour tout deux fois en Guinée dans ma vie. La première fois avec mon père, 3 semaines. La deuxième fois au moment de sa mort, pour l'enterrer.
Est-ce que vous savez comment est perçue l'Afrique en Allemagne?
Oui, je pense que l'Afrique est toujours très exotisée en Allemagne, beaucoup plus qu'ici. Il y a beaucoup moins de contacts, il y a beaucoup moins d'histoires communes. C'est très clair. Quand j'arrive à Paris, ce contraste par rapport à où j'habite et Paris, qui est, enfin, où il y a tant d'Africains, d'enfants d'Africains, oui.
Et c'est un contraste qui vous apaise ou qui vous inquiète?
Qui me fait sourire, parce que je me dis, je suis revenue en arrière en choisissant l'Allemagne, mais je suis survenue dans les années 80 en France où j'avais l'impression d'être toute seule, pratiquement. J'exagère. Et alors que maintenant, en France, enfin vraiment, je passe complètement inaperçue, à Paris en tout cas.
Bon, je vous emmène au pays des proverbes malinqués. Je ne sais pas si celui-là, votre père le connaissait. Il y en a un que j'adore, enfin votre père parlait peu. Mais il y a un proverbe malinqué que j'adore et qui dit « À la danse du cul, l'éléphant et le lièvre ne sont pas partenaires ». Et ça, c'est pour faire tapis rouge à la voix de Sékou Touré.
Nous pensons que la grandeur de l'homme, tout comme la grandeur d'une nation, ne saurait être exprimée valablement que par l'esprit sous-tendant ses attitudes, ses activités. Et c'est pourquoi, avec la France, nous n'avons jamais eu de rupture réelle. Il y a eu l'incompréhension, il y a eu même des animosités entre quelques groupes et nous. Mais quant au peuple français que nous connaissons, que nous admirons, il n'y a pas eu de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. Pourquoi? Notre fusion totale est faite dans la communauté des idéaux choisis.
Et comme entre deux.
Un peu de Bretagne et un peu de Guinée dans votre fort intérieur, Elisa Diallo. On a compris que vous saviez forcément peu de choses de la Guinée, mais est-ce que vous savez au moins pourquoi votre père a été, on va dire, interdit de Guinée pendant des décennies?
Oui, alors, moi, c'est la première fois que j'entends la voix de Sékou Touré.
Ah, comment vous la trouvez?
Banale. Pour moi, c'est une image tellement sombre, c'est un personnage tellement horrible.
C'est drôle que vous disiez ça, parce que tous les auditeurs qui vous écoutent sur le continent, beaucoup ont une autre image évidemment de Sékou Touré. Il a été l'homme du camp de Boiro, par exemple, effectivement, mais oui. C'est aussi l'homme qui a dit non au général de Gaulle.
Je sais.
vous dites ça les dents serrées.
Non mais alors, c'est pareil, là, je serais très très prudente sur ma... Je vais pas m'engager sur ce terrain-là. Sékou Touré, c'est effectivement une des raisons qui a fait que mon père n'est pas retourné en Guinée de 65 à 84.
Vous en voulez à Sékou Touré, quoi?
J'en veux à Sékou Touré, je ne sais pas, non, je... je passe très peu de temps à penser à ces couturiers, mais enfin pour moi, c'est les histoires que j'en ai entendues, les récits, les commentaires, c'était absolument toujours négatif.
En même temps, vous dites une chose assez jolie à propos de votre père. Vous dites « je lui envie le fait d'avoir eu un pays d'origine ».
Ben oui. Oui, moi j'aurais aimé savoir au moins pourquoi, je le savais, mais avoir une raison de ne pas être comme les autres à l'école. Si j'avais grandi en Guinée ou si j'étais née en Guinée, si j'avais eu, comment dire, un arrière-fond...
Un vécu.
Derrière moi, voilà, qui justifiait le fait que j'étais française, mais aussi autre chose, ça aurait été peut-être plus facile d'accepter que j'étais perçue comme venant d'ailleurs, alors que je ne venais pas d'ailleurs.
Donc pour dire que vous êtes évidemment plus proche de la Bretagne que de la Guinée.
On peut dire ça comme ça, oui.
Donc si on résume un peu, Elisa... Elisa Diallo, vous vous êtes extrait de la France par peur qu'elle ne le fasse elle-même, ce sont vos mots. Vous êtes attachée aux Pays-Bas, en phase de germanisation. Voilà. Vous êtes donc une Européenne qui a une sensibilité du Sud.
Voilà. Et ça m'intéresserait d'ailleurs beaucoup de développer un réseau comme ça, de prendre le pouls de tous ces gens en Europe, partout en Europe, qui ont une sensibilité du Sud, comme vous dites, d'entrer en dialogue avec tous ces gens-là, de savoir comment ça se passe dans d'autres pays, de contraster les expériences. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Mais elle s'exprime comment, cette sensibilité du Sud, chez vous ?
Un sentiment de solidarité avec tous les autres, un sentiment de familiarité avec d'autres gens du Sud, d'où ils soient, voilà.
Je vous emmène, vous et votre sensibilité, au pays du Wakanda, le pays de la panthère noire.
Vous voulez dire que le roi d'un pays du tiers-monde se balade en combi moulante à l'épreuve des balles ?
Demandez-lui si vous croyez que c'est faux. C'est pas dur, il est là, dehors.
J'ai attendu ce jour toute ma vie. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde.
Pour le Wakanda éternel.
B comme boîte de Pandore.
Une séance de cinéma Black Panther qui vous a rendu optimiste. Vous pensez que c'est une boîte de Pandore, ce film ?
Ah, moi j'ai adoré ce film, j'ai adoré le voir avec mon fils. Et je me suis fait la réflexion en le regardant qu'il suffirait que 30% des films qu'on voit au cinéma, des films grand public, soient comparables à celui-là, c'est-à-dire avec beaucoup d'acteurs, pas obligé que ce soit tous, mais enfin... beaucoup d'acteurs noirs pour que mes enfants grandissent avec une image d'eux-mêmes et de ce que c'est que d'être noir et d'être blanc complètement différente. Ça change tout.
Qu'a dit votre fils en sortant de ce film ?
Moi, lui, il a trouvé ça formidable. Si, ça change ses références esthétiques. Et moi, ce qui m'a aussi énormément plu dans ce film, ce sont les femmes. L'image de la féminité.
Ce sont des guerrières, ce sont des reines.
Elles sont magnifiques, elles n'ont pas de cheveux.
Le fait qu'elle n'ait pas de cheveux qui est magnifique.
Non, mais elles sont magnifiques sans avoir de cheveux. C'est-à-dire qu'il est possible, sans avoir de longs cheveux raides, d'être belle et féminine. On a très peu d'exemples de ça.
Est-ce que vous pensez que ce film peut ouvrir la boîte de Pandore de la question de la diversité en Allemagne ? Je ne sais pas où elle en est, cette question, d'ailleurs.
Elle commence, mais une anecdote, je ne savais pas, mais j'ai appris récemment que l'actrice... qui joue la guerrière principale dans le film de Wakanda, c'est une actrice allemande.
Mais où en est l'Allemagne sur cette question de la diversité dans les médias et au cinéma ?
Alors au cinéma, nulle part, je dirais, je ne sais pas. Dans les médias, enfin moi, ma perception, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes de couleur dans les médias allemands qu'en France, étonnamment. Parce que dans la société, il y en a quand même beaucoup moins en Allemagne qu'en France. Je ne sais pas d'où ça vient, je n'ai pas d'explication, mais je constate. Et voilà.
Vous qui travaillez dans la traduction, d'ailleurs peut-être que c'est ça votre nouveau pays, c'est celui de la traduction, celui de traduire. Vous lisez beaucoup Elisa Diallo, deux, trois noms m'ont été rapportés. Je sais que vous avez lu Toni Morrison, Nadine Gordimer, Proust aussi. Et j'aimerais qu'on referme cet en sol majeur sur la voix de Nelson Mandela, sur votre demande d'ailleurs. Mandela lisant un poème d'Ingrid Jonker. Ce poème, il l'a lu lors de son intronisation en 1994. Redites-nous qui était cette incroyable Ingrid Jonker.
Elle était, c'était une poète, engagée aussi, qui s'est suicidée. Et elle a écrit ce poème, alors elle a écrit aussi des poèmes d'amour, des poèmes très intimes. C'était pas quelqu'un principalement engagé en politique, surtout qu'à l'époque c'était dangereux. Mais enfin, elle a écrit ce poème au moment de, après Sharpeville, un poème qui, moi, me fait pleurer absolument à chaque fois que je le lis. Je l'ai appris la première fois, je l'ai lu la première fois dans sa langue d'origine, c'est-à-dire en afrikaner, parce que c'est une langue qui est très proche du néerlandais, donc je comprends. Mais Mandela l'a lu dans sa traduction anglaise.
Alors, c'est un poème écrit effectivement après avoir assisté impuissante à la mort d'un enfant tué par balle dans les bras de sa mère, à Nyanga, donc en Afrique du Sud, en plein apartheid, en 1960.
The child is not dead.
L'enfant n'est pas mort.
The child lifts his fist against his mother, who shouts Africa.
L'enfant lève les poings contre sa mère qui crie Africa.
The child is not dead.
L'enfant n'est pas mort.
Not at Langa, nor at Nyanga.
Ni à Langa, ni à Nyanga.
Nor at Orlando, nor at Sharpeville.
Ni à Orlando, ni à Shepherdville.
Nor at the police post at Philippi.
Ni au commissariat de Philippi.
Where he lies with a bullet through his brain.
Où il gît une balle dans la tête.
The child who only wanted to play in the sun at Nyanga is everywhere.
L'enfant qui voulait simplement jouer au soleil à Nyanga et partout.
The child, grown to a man, tracks on through all Africa.
L'enfant devenu homme arpente toute l'Afrique.
The child, grown to a giant, journeys over the whole world.
L'enfant devenu géant voyage dans le monde entier.
Without a pass.
Sans laisser passer.
Un poème qui aide à croire, hein, Elisa Diallo, pour vous qui êtes allée en Afrique du Sud dans les années 2000 faire vos études.
C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs séjours de 4 semaines à chaque fois, au Cap. Oui, alors l'Afrique du Sud, c'est un pays effectivement très difficile, où la ségrégation est encore dans les années 2000 et aujourd'hui encore à l'ordre du jour. Effectivement, c'est aussi intéressant quand on est aussi sensibilisé ou paranoïaque, comme pour revenir à ce qu'on disait au début, en ayant grandi en France, dans des conditions matérielles et politiques absolument aisées et sans aucun problème objectif, mais avec un problème symbolique d'être tout d'un coup confronté à un pays où le racisme est politique et matériel et institutionnel et violent. Mm-hmm. Ce qui m'a quand même frappée, moi, au Cap, c'était que les gens me parlaient en afrikaans, donc en afrikaner, qui est la langue des métis, des colors. Et je me suis fait la réflexion à l'époque, j'avais 25 ans, que c'était la première fois que les gens pensaient que j'étais une locale. Et je me suis dit que ça faisait un bien fou, avec toutes les réserves. Alors, je ne veux pas du tout dire que j'aurais aimé vivre en Afrique du Sud, hein, pour être clair. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose qui m'a frappée à l'époque. C'est ces petites choses qui relèvent du symbolique et de l'irrationnel et qui sont quand même importantes.
Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, Elisa Diallo, on peut dire de vous que vous êtes une euro-optimiste ?
Oui, ça dépend des jours. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 50% de chances pour qu'on y arrive et que la génération qui nous suive arrive à construire une Europe ouverte et libre et démocratique, au vrai sens du terme.
Vers à moitié plein.
Oui, c'est bien dit.
En sol majeur. @rfi.fr.
À lire aux éditions Climat, Fille de France, de notre invitée Elisa Diallo, qui va devoir choisir entre Alpha Blondie d'un côté avec Sweet Fanta Diallo et Les Innocents de l'autre avec Color. Ou Coloré, je ne sais pas.
Color. Je vais choisir Les Innocents.
Pourquoi ?
Parce que j'ai envie d'entendre cette chanson. J'aime beaucoup. Je l'entends déjà dans ma tête quand j'en parle. Et évidemment, j'aime ce mot, j'aime ce titre, j'aime ce qu'il évoque. Et c'est une chanson qui m'a fait du bien aussi à l'époque.
C'est assez joli parce qu'on aura commencé avec Couleur Café, puis on finit avec Color. Merci, Elisa.
Merci à vous.
Color, le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Indolore, les murs écoulent dans le fleuve, la fracture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais.
Avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio, ou bien, c'est ce qu'on préfère, derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 15h à Paris. Juliette Brault, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec Daniel Knoll. À la semaine prochaine.